revenons avec les analystes politiques sur la signature jeudi dernier à Nairobi au Kenya des deux déclarations mettant fin au pourparlers de Kampala. L'une des déclarations signées par le M23 marque la dissolution de ce mouvement rebelle et l'autre signée par Kinshasa dans laquelle le gouvernement s'engage à mettre en place notamment le programme de démobilisation des éléments du M23. Nos invités sont professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Moïla, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Maître Jean-Morbert Nsenga, avocat et analyste politique. Bonsoir Maître Nsenga.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Vous le savez, c'en est fini avec les pourparlers de Kampala. Un communiqué final conjoint a été signé jeudi dernier à Nairobi au Kenya. Celui-ci met fin au dialogue de 12 mois entre le gouvernement congolais et les anciens rebelles du M23. C'était en présence de l'équipe des envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs. Kelly Nkouté revient sur certaines dispositions de ces déclarations.
Selon le communiqué final conjoint CIRGL-SADC sur les pourparlers de Kampala, les deux déclarations se résument en 11 points négociés convenus par le gouvernement de la RDC, le M23. Il s'agit entre autres d'amnistier les membres du M23 uniquement pour des faits de guerre et d'insurrection. Le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale des éléments du M23 figurent aussi parmi les engagements pris entre les deux parties. Un autre point à retenir de ces deux déclarations, c'est la libération des membres du M23 détenu par le gouvernement de la RDC pour faits de guerre et d'insurrection. Le M23, de son côté, a décidé de mettre fin à la rébellion et à se transformer en un parti politique légitime. Pour ce qui est de la question des biens spoliés, extorqués, volés, pillés, détruits, terres comprises, une commission sera mise en place et sera composée de manière représentative et inclusive, dont les représentants du M23. Il en sera de même pour la Commission nationale des réconciliations et de la structure chargée des question des réfugiés. Enfin, la mise en œuvre des conclusions de la réévaluation de la mise en œuvre de l'accord du 23 mars 2009 fait partie également des engagements pris par le gouvernement de la RDC. Les envoyés spéciaux de la communauté internationale encouragent les deux parties à mettre rapidement en œuvre les engagements auxquels ils ont souscrit.
Merci Kelly Nkouté. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, comment avez-vous accueilli la signature de ces deux déclarations qui sanctionnaient la fin des pourparlers de Kampala?
La signature de ces deux déclarations, il me semble bien que c'est quelque chose qui était très attendu, beaucoup plus par la communauté internationale, qui était plus soucieuse sur la suite à réserver à cette aventure militaire du M23. Il faut dire qu'au niveau national, les gens accordaient moins d'importance à cet événement parce que militairement, le M23 était déjà vaincu et donc au niveau interne, cette cérémonie de signature n'avait pas beaucoup trop d'importance. Et il faut dire aussi que les rapports de force sur terrain ont donné aux négociations une autre tournure, étant donné que le M23 a carrément accepté toutes les conditions posées par le gouvernement. Et le gouvernement n'avait plus à se précipiter à signer un accord, plutôt, c'était le M23 qui, coincé, avait intérêt à accepter toutes les conditions du gouvernement parce que ils sont aujourd'hui en dehors du territoire.
Professeur, de votre...
Il faut aussi... Oui, allô?
Je vous en prie, terminez votre idée, je vous en prie.
Oui, il faut aussi dire que le gouvernement de l'M23 s'était déjà bien avant mis d'accord sur 11 points et se posait alors la question de la sémantique. Est-ce le document assigné allait être l'accord ou la déclaration. Et du point de vue du gouvernement, c'est que, ayant été vécu militairement, le concept accord n'était pas un concept accepté, et donc il fallait que chacun fasse une déclaration séparée. Ce qui a été fait, et seulement quand vous lisez très bien cet accord, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très bonnes, il y a d'autres qui sont assez étonnantes. D'abord, le gouvernement refuse de signer un nouvel accord, préférant signer une simple déclaration, mais il a voulu quand même faire référence à l'accord du 23 mars 2009. Un accord assez controversé qui, de mon point de vue, n'avait pas sa place dans la déclaration. Étant donné que dans cet accord, il y a un certain nombre de points sur lesquels l'opinion nationale était assez réservée.
Professeur?
Allô?
Professeur, je vous propose juste une question de précision avant que l'on revienne sur les bonnes choses et d'autres qui sont étonnantes que vous venez d'évoquer tout à l'heure. De votre point de vue d'analyste, comment vous expliquez que la signature se soit faite à Kampala, à Nairobi plutôt, au lieu de Kampala, en passant?
Bon, je crois qu'il y a d'abord les tergiversations et la position de Kinshasa qui considère Kampala comme une partie impliquée dans le conflit et que donc la neutralité de Kampala dans le dossier était remise en cause et du coup Nairobi semblait un terrain de prédilection parce que Nairobi ne se sent pas, n'est pas suffisamment impliqué dans ce qui se passe à l'est du pays. Et donc je crois que à un moment donné, les déclarations d'ailleurs du porte-parole du gouvernement allait dans le sens de dire que Kampala n'était pas les lieux indiqués étant donné son immixtion assez fréquente dans ce qui se passe à l'est du pays. Et je crois que ce terrain neutre permettait aussi bien au M23 qu'à Kinshasa de se sentir plus à l'aise et je crois que c'est l'un des éléments qui a milité en faveur du choix de Nairobi.
Alors, professeur, revenons maintenant sur qu'est-ce que vous considérez, vous, comme les bonnes choses dans ces déclarations?
D'abord, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. C'est que le M23 accepte de mettre fin à sa rébellion, et ça, il est dit dans des termes beaucoup plus clairs. Mais aussi, le M23 accepte sa transformation futur en un parti politique. Et là, on attend bien voir quelle dénomination, mais aussi quelle orientation idéologique prendra ce mouvement rebelle, quand on connaît bien ses revendications antérieures. Mais aussi, vous avez un M23 qui accepte, ce qui est assez étonnant, que ses propres membres soient poursuivis, au moins ceux-là qui étaient si vous voulez, reconnus ou coupables des actes de violation, donc de violences sexuelles et autres, qu'ils soient poursuivis. Et donc ça, vous avez, c'est une première, je crois, dans l'histoire de la rébellion, de voir qu'une rébellion accepte que ses propres membres soient poursuivis. Et ça, c'est, il me semble bien que c'est une déclaration assez forte. Mais je crois que le M23 n'avait pas beaucoup de choix, parce que il fallait éviter évidemment un suicide collectif de tout le membre de ce mouvement, donc il fallait donner une voie de sortie à un grand nombre de membres qui ont, d'une manière ou d'une autre, été trempés dans ces conflits de manière très engagée.
Merci professeur, je vous redonne la parole dans le prochain tour de table. Professeur Moïla Tchiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, comment vous avez accueilli la signature de ces deux déclarations qui mettaient fin au pourparlers de Kampala?
Oui, Alain, je pense que comme d'habitude, hein, vos émissions ont un caractère pédagogique. Il serait peut-être mieux, hein, pour apprécier les deux déclarations et leur contenu, de les examiner point par point. Comme ça, on pourra évoluer et avancer des arguments pour ou contre. Mais pour le premier point, vous savez qu'il y avait une querelle sémantique, est-ce qu'il faut un accord, est-ce qu'il faut autre chose qu'un accord, c'est-à-dire un acte de fin d'hostilité, etc., etc. Mais je pense qu'il y avait une inquiétude tout à fait justifiée Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une guerre civile qui se termine d'une manière ou d'une autre, la fin de la guerre doit être sanctionnée par un document. Ça peut être un accord, ça peut être une déclaration, mais l'enjeu, c'est que la volonté des belligérants, lorsque la guerre se termine, on doit savoir l'expression à écrire, exprimée par les uns et les autres, doit être exprimée par écrit, de telle manière que la responsabilité des uns et des autres soit engagée dans la mise en œuvre de ce qui a été prescrit. Donc, on peut se féliciter, je pense qu'il y a lieu de se féliciter, que finalement le gouvernement de la République, donc le gouvernement congolais, et les rebelles, le M23, sont parvenus à rédiger, bien que ce soit d'une manière unilatérale, chacun de son côté en rapport, mais ce qui est commun, c'est qu'il y a les fameux 11 points sous lesquels et le gouvernement et la rébellion s'étaient déjà mis d'accord, et ce sont ces points, en fait, qui sont repris ici dans la déclaration finale, et qui, à mon avis, du moment où ces documents existent, il ne faut pas, j'en finis sur ce point, il ne faut pas considérer la déclaration au sens du droit international, parce qu'en droit international, une déclaration, c'est un acte de volonté, mais qui n'est pas obligatoire, qui ne lie pas les parties. Les États peuvent signer une déclaration si les clauses de la déclaration ne sont pas intégrées par chaque pays dans ses lois nationales ou dans sa constitution, les clauses en question gardent une valeur morale, de référence morale. Mais ici, nous sommes dans un cas spécifique. Le droit international humanitaire permet aux États, notamment quand il y a conflit, un gouvernement souverain avec un mouvement insurrectionnel, il est prévu qu'il peut y avoir un accord spécial liant les parties qui n'est pas soumis aux exigences des traités ou des conventions qui sont signées entre les États. Donc, que ces documents soient séparés, il y a au moins lieu de dire qu'ils engagent les deux parties et on ne doit pas les percevoir comme déclaration au sens premier du droit international.
Professeur, il y a Maître Pony Matsande qui nous écrit de Goma en Nord-Kivu, qui dit « Quel est le fondement politique de signer une déclaration en faveur d'un groupe armé des faits? Quelles sont les sanctions du non-respect de ces déclarations par les parties signataires? Des déclarations sur des actes séparés ne constituent-elles pas un accord conventionnel entre les signataires ?»
Ben, disons que c'est ce que je viens de dire en quelques mots. Le gouvernement congolais représente un État souverain. Le M23 représente une rébellion composée des Congolais qui ont pris les armes contre leur propre gouvernement, contre leur propre armée. Si on prend, on part de l'hypothèse que parmi les combattants du M23, une bonne partie, ce sont des soldats congolais. Donc par conséquent, il est prévu dans le cadre du droit international humanitaire qu'en cas de conflit interne, et quand il s'agit d'aller vers la paix, un État souverain peut signer un accord avec une rébellion concernant la paix. Et les clauses de cet engagement lient à la fois l'État souverain et le groupe rebelle en question au regard de la communauté internationale. Ben, je rappelle ici que lorsque vous lisez les deux déclarations, le gouvernement congolais se réfère à la fois à l'accord cadre de l'Addis Abeba, se réfère également à la résolution du Conseil de sécurité créant la brigade d'intervention, se réfère également à la conférence de la région des Grands Lacs, qui sont des textes internationaux auxquels l'État congolais est parti et auxquels l'État congolais est lié. Donc, quelle que soit l'appellation, on doit considérer que ce texte engage le gouvernement congolais et engage la rébellion.
Professeur, on a suivi dans l'introduction de cette émission, Kelly, notre collègue Kelly a repris les grandes lignes de cette déclaration, mais qu'est-ce que vous répondez à certains analystes qui pensent que cette déclaration accorde beaucoup plus d'avantages au M23?
Non, je pense que cet argument n'est pas totalement fondé du point de vue du droit et même du point de vue de la science politique, parce qu'il faut voir, il faut faire une étude comparée, ce que je me suis donné comme devoir de faire depuis un certain nombre de jours, pour voir qu'est-ce qui était écrit ou inscrit dans l'accord de 2009. Souvenez-vous que l'M23 est parti fleur au fusil en disant « Je fais la guerre parce que l'accord de 2009 n'a pas été respecté ». Alors je me suis donné la peine de voir quelles furent les clauses ou quelles étaient les clauses de l'accord de 2009, quelles sont les clauses des déclarations d'aujourd'hui et qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait en recul ou en avancée au regard des clauses jadis inscrites dans l'accord de 2009. Alors si vous le souhaitez, on peut prendre point par point.
Professeur, professeur,
dans l'accord de 2009,
professeur Moïla.
Je vous en prie.
Professeur, je vous redonne la parole tout à l'heure, comme ça nous allons faire, nous allons prendre cette approche comparée dont vous parlez. Je vous redonne la parole tout à l'heure, le temps de prendre Maître Jean-Morbert Nsenga, avocat et analyste politique. Maître Nsenga, quelle est votre analyse à vous? Vous venez de suivre les professeurs Félicien Kabamba et Moïla Tshiembe. Maître Nsenga? Maître Morbert Nsenga, décidément on a quelques difficultés, la réalisation va tenter de le retrouver. Professeur Félicien Kabamba, vous venez de suivre le professeur Moïla qui pense qu'il est un peu c'est un peu hâtif de dire que, comme le pensent certains analystes, que ces déclarations accordent beaucoup plus d'avantages au M23. Quel est votre point de vue?
Non, je crois plutôt que les deux déclarations me semblent équilibrées. Il y a aussi bien des droits que des obligations auxquelles les deux parties sont à ça. Et donc du coup, je ne crois pas qu'il y ait un déséquilibre au profit du M23. Par contre, moi j'ai quelques inquiétudes, c'est que, premièrement, il y a la référence à l'accord. Je vois déjà que le professeur moi, il a commencé à l'analyser. J'ai eu l'occasion de lire également cet accord. L'accord du 23 mars, il me semble que une allusion faite à cet accord va avoir une implication sur l'éclaration. Parce qu'en fait, il faut savoir que le CNDP, c'est... en fait, le M23, c'est la continuité carrément du CNDP. Ce sont des anciens du CNDP qui, mécontents de ce qu'ils appellent non-application de l'accord, créent l'M23. Et donc, du coup, il y a une signature d'un accord, et cet accord a été appelé l'accord du 23 mars. Et donc, du coup, quand le M23 naît, il naît parce qu'il est mécontent de ce... Alors, quand vous refusez de signer un nouvel accord, vous faites quand même référence à l'accord passé, qui est, à mon avis, un accord déséquilibré, c'est là. Ça pose quelques problèmes. Mais il y a aussi un autre problème, c'est... moi, je me demande, il y a énormément de forces négatives à l'est du pays. Ces forces négatives doivent être combattues au même titre que l'M23. Alors, la question qui se pose que... Est-ce qu'il y aura successivement des accords avec les autres forces négatives? Parce qu'il faudra éviter qu'on réserve un traitement spécial au M23... Il y a plusieurs mouvements armés à l'Est qui doivent être combattus, désarmés. Est-ce qu'il y aura successivement, parce que là, il est même prévu une commission sur la réconciliation, et je crois que la réconciliation doit être une réconciliation d'ensemble.
Merci.
De toutes les parties prenantes, de toutes les parties en conflit. Il faut donc éviter de réserver la part trop belle au M23, et qu'il faudrait attendre, à mon avis, que tout le pays soit reconquis, et que toutes les forces négatives soient neutralisées, et envisager une réconciliation nationale, parce qu'il faut également écouter les autres partis qui ont pris les armes et qui prétendent pouvoir défendre soit leur village, soit leur coin, et donc ils ont des raisons qu'il faudra mettre sous la table. Et du coup, quand on envisage, il semble bien qu'on donne un traitement assez spécial au M23, on semble ignorer qu'en fait, l'objectif, c'est de combattre toutes les forces négatives. Et le M23 en était une. Alors, il faudra, à mon avis, avoir une vision un peu globale de la réconciliation nationale, une vision qui intégrerait tous ceux qui ont pris les armes.
Ben voilà. Merci professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. La réalisation me signale que Maître Jean-Morbert Nsenga est de nouveau en ligne. Maître, vous nous suivez?
Oui, je vous suis très bien.
Voilà, merci beaucoup. Je vous posais la question tout à l'heure de savoir quelle était votre analyse par rapport à la signature de ces deux déclarations. Vous avez suivi les professeurs Félicien Kabamba et Moïla Tchiembe.
Oui, en fait, la seule chose dont on peut
Voilà, nous avons quelques difficultés avec la ligne de Maître Jean-Morbert Nsenga. Professeur Moïla Tchiembe, est-ce qu'on peut maintenant suivre votre analyse comparée dont vous nous parliez dans votre précédente intervention? Vous avez la parole.
Oui, merci Alain. Alors, parmi les points de l'accord, le premier c'est l'amnistie. Alors, dans l'accord de 2009, étaient exclus du bénéfice de l'amnistie les personnes ayant commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la déclaration d'aujourd'hui, de 2013, le gouvernement congolais a pris soin d'élargir ce champ d'exclusion de l'amnistie pour l'élargir aux violences sexuelles, au recrutement d'enfants soldats et aux violations massives des droits de l'homme. Je pense qu'il y a là un acquis, le gouvernement a tenu compte de tout ce qui s'est passé depuis 2009 et pour éviter de tomber dans le piège de la volonté d'aller tendre la main sans tenir compte des paramètres à partir desquels on peut fonder la paix, donc il y a là un engagement de plus du gouvernement, à mon avis, qu'il faut saluer. L'autre élément que le gouvernement congolais a ajouté, c'est la personnalisation et la révocabilité de l'amnistie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le gouvernement congolais a ajouté deux principes nouveaux qui n'existaient pas dans l'accord de 2009. C'est-à-dire que personnalisation, cela veut dire que désormais, pour bénéficier de l'amnistie, chaque membre du M23 doit s'engager, je dis bien, par écrit et s'abstenir de manière permanente à recourir aux armes ou à participer à un mouvement insurrectionnel pour faire aboutir une quelconque revendication. Ça, c'est nouveau. Le deuxième principe nouveau que le gouvernement a ajouté, c'est ce que j'appelle la révocabilité de l'amnistie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toute violation de l'engagement par un membre du M23 systématiquement, c'est-à-dire que l'amnistie attribuée ou reconnue, et disqualifie l'auteur de cette violation du bénéfice de toute amnistie ultérieure. Donc, ces deux principes que le gouvernement congolais vient d'ajouter n'existent pas dans l'accord de 2009. Ça montre la détermination du gouvernement de poser l'opinion des Congolais qui est régulée par le retournement et tout ce que l'on peut dire de non-application. Le M23 accuse le gouvernement de ne pas appliquer, mais le pays et le gouvernement accusent eux aussi le M23 de n'avoir pas appliquer l'esprit des accords qui avaient déjà été signés. Deuxième élément, dans les dispositions transitoires de sécurité de l'accord de 2009, l'un des enjeux est que le DPR devrait concerner automatiquement tous les chefs rebelles, à commencer par ceux du CNDP, devraient être déversés dans l'armée et dans la police nationale. Et vous connaissez, cet élément était la pierre angulaire de la revendication du genre de CNDP. Or, le gouvernement congolais, tenant compte, effectivement, du refus de l'ensemble des Congolais aujourd'hui, de voir les gens du M23 ou autres réintégrés dans l'armée, merci, dans la police, a exclu la réintégration de l'armée en gardant seulement la possibilité de la réinsertion sociale. Ça, c'est nouveau. Ça montre que le gouvernement tient compte de l'opinion et reste...
Voilà, maître, merci professeur pour cette analyse comparée. Maître Jean-Morbert Nsenga, est-ce que vous êtes de nouveau en ligne?
Je suis en ligne.
Voilà, vous avez la parole pour donner votre analyse par rapport à la signature de ces déclarations.
Oui, alors là, je suis vraiment, je ne sais pas comment, par où commencer exactement, mais si vous permettez, j'aimerais réagir par rapport à trois ou quatre éléments qui ont été donnés par des éminents professeurs.
Je vous en prie.
Et avec lesquels je ne suis malheureusement pas d'accord. Le premier, c'est ce qu'ils sont en train d'appeler les points positifs de ces déclarations. Sur la fin de la rébellion, il n'y a rien de nouveau, parce que depuis le 5 novembre, le M23 avait signé une déclaration, et moi j'ai lu les termes, il n'y a rien de plus précis que ça. Dans la déclaration, dans la récente déclaration de Nairobi, c'est une toute petite phrase où le M23 dit « Nous confirmons, le M23 confirme renoncer à sa rébellion. » Point. Il y a une déclaration du 5 novembre dans laquelle il avait déjà dit la même chose et avait indiqué que ces éléments étaient disposés, étaient préparés au cantonnement et tout le reste. Donc il n'y a rien de nouveau par rapport à cet élément. L'autre élément, c'est la transformation en parti politique. Je trouve dommage que l'on se réjouisse aujourd'hui que le fait que le M23 pourrait éventuellement devenir un parti politique soit un point positif, alors que en 2009 le CNDP est devenu un parti politique. Il y a également d'autres groupes armés qui sont devenus des partis politiques. Mais qu'est-ce que cela a changé dans l'état de la situation sécuritaire ici dans l'est de la RDC? Le CNDP, cela ne l'a pas empêché de commencer une nouvelle rébellion début 2012, même si ça c'était sous un autre nom. Donc, à mon avis, on ne devrait pas permettre à ces gens qui prennent les armes contre la République, qui pillent, qui tuent, qui violent, de constituer des partis politiques. Quelle sera l'idéologie de ce parti politique? Parce que dès le départ, ils se sont engagés dans une action non violente et ils y ont renoncé non pas de leur propre gré, mais par la force des armes. Donc c'est un mauvais antécédent et malheureusement les 20 dernières années de l'histoire du Congo sont remplies de tels exemples. Et ça n'a pas vraiment fait évoluer les choses. L'autre élément, c'est qu'on dit que M23 accepte que ces dirigeants qui seraient coupables de crimes graves, des crimes internationaux, donc les génocides, le crime contre l'humanité, les crimes de guerre, puissent être poursuivis. Mais le M23 n'a pas à accepter que ces gens soient poursuivis. S'ils ont commis des crimes, par la force de la loi, ils doivent être poursuivis. On n'a pas besoin d'un accord du M23 pour que ces éléments puissent être poursuivis pour de tels crimes. Donc ça ne signifie absolument rien, à mon avis. Et enfin, c'est la non-insertion des éléments du M23 dans les FARDC. C'est vrai que je trouve qu'à 50% c'est un bon élément. Pourquoi 50%? Parce qu'on n'a pas dit dans ces déclarations, de façon explicite, que les éléments du M23 ne pourront pas être intégrés dans les FARDC. Je mets quiconque à défi de me prouver le contraire. Il est dit que les éléments du M23 seront cantonnés, désarmés, cantonnés, démobilisés, réinsérés socialement, etc. Mais on n'a pas dit qu'on ne peut pas les introduire dans les forces armées de la RDC. Ce n'est dit nulle part. Et après l'intégration sociale ou la réinsertion sociale, on peut toujours les récupérer et les mettre dans l'armée. On sait comment les choses tournent dans ce pays.
Maître Morben Sengala, vous venez d'évoquer un certain nombre d'éléments que vous considérez négatifs. Alors qu'est-ce qu'on peut considérer comme positif dans ces déclarations?
De façon objective, je trouve que la seule chose qu'on peut appeler positive, c'est que au moins les pourparlers de Kampala, les interminables pourparlers de Kampala, ont pris fin. Ça c'est terminé maintenant. Madame Mary Robinson, qui a beaucoup poussé pour que il puisse y avoir un papier signé, elle peut être satisfaite. Donc pour moi, ça c'est le seul avantage, parce que ces pourparlers ont trop duré inutilement, ils ont trop coûté à la République. Et ils n'ont rien apporté parce que, en fin de compte, ce n'est pas l'accord entre le gouvernement et le M23 qui a mis fin au M23, c'est la force des armes. Donc, pour moi, c'est vraiment l'unique chose positive, mais à quoi elle sert encore?
Maître Morben Sengam, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu au Maniema.
Pour ma Banda Mutayo de Kindu dans la province du Maniema. Si le M23 est né suite au non-respect par le gouvernement congolais de l'accord du 23 mars avec les CNDP, effectivement, sachant que sa véritable mort ou dissolution n'est politiquement possible qu'avec un minimum de respect par l'État congolais de l'accord précité.
Réaction, Maître Morbert.
Oui, l'intervention de l'auditeur met en lumière un autre élément très fondamental. Dans notre pays, on a l'habitude de penser résoudre un problème de façon cosmétique, si je peux le dire ainsi. On a dit le CNDP avait signé un accord en 2009 avec le gouvernement. Le gouvernement n'aurait pas respecté une partie de cet accord et une partie du CNDP s'est rebellée, alors on ne va plus signer d'accord. C'est comme si la seule chose qui a poussé, qui a fait naître le M23, c'est le mot « accord ». Or, ce n'est pas ça, parce qu'en le changeant, ça n'interdit pas un mouvement rebelle de naître demain pour dire « nous réclamons la mise en application ou la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi ». Non, ça, rien n'est interdit. Donc, parce qu'on a remplacé tout simplement le mot « accord » par « déclaration », on croit qu'on a résolu quelque chose, mais absolument rien.
Merci,
parce
maître.
Parce que, encore une fois, sur le contenu, ceux qui ont lu le draft qui devait être signé le 11 novembre de cette année à Kampala, c'est la cérémonie là qui avait avorté à la dernière minute. Ils vont se rendre compte que c'est exactement le même texte.
Merci.
Qui a été scindé en deux entre les engagements du gouvernement et les engagements du M23. Et puis on a dit déclaration de celui-ci, déclaration de celui-là. Et chose étonnante, ça, je termine par là, chose étonnante, dans la déclaration du M23, au point 4.2, le M23 déclare un engagement du gouvernement. Qu'est-ce que je veux dire? Il est dit à ce point, donc le point 4.2, le gouvernement s'engage à libérer les prisonniers et à les remettre au CICR. Ça, c'est le M23 qui déclare.
Merci, maître.
Comment est-ce possible que le M23 déclare pour le compte du gouvernement?
Merci, maître. Professeur Félicien Kabamba, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Placide Mutombo de Lubumbashi au Katanga. Il est vrai que dès lors que le gouvernement de la RDC a gagné la guerre de l'Est face au M23, cela a modifié considérablement le rapport des forces dans le pourparlers de Kampala. Et avec la déclaration de l'autodissolution par les dirigeants du M23, la RDC ne pouvait plus craindre de signer n'importe quel document, soit-il une déclaration, car ne les liant plus à un mouvement qui n'existe plus. Il n'y a donc rien à craindre que la RDC signe une déclaration qui n'a aucun caractère contraignant vis-à-vis des organisations régionales, voire la communauté internationale.
Professeur, il y a d'autres analystes qui pensent que, après avoir signé ces déclarations, le gouvernement peut ou ne pas appliquer, ne pas respecter sa signature. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il est toujours plus facile de signer des documents, mais le plus difficile, c'est de pouvoir appliquer le contenu. Et si on en est arrivé à cette insurrection, selon nos amis du M23, c'est parce que les accords n'étaient pas respectés, encore que cela n'est pas vrai. Alors, le plus grand défi actuellement, c'est que bon, on a signé les documents, on peut l'appeler accord, on peut l'appeler déclaration, mais il contient un certain nombre de choses, et donc nous tournons nos regards vers le gouvernement pour voir comment le gouvernement va les appliquer. Et je sais qu'il va y avoir un certain nombre de problèmes. Certains problèmes, j'ai commencé à les évoquer. Il dit qu'on va avoir une réconciliation, mais une réconciliation avec qui? Il faudra que la réconciliation, parce que on a déjà entamé la réconciliation ici avec le forum qui avait été organisé à Kinshasa et on en connaît le résultat. Et donc aujourd'hui, il y a une commission de réconciliation avec le M23. Pour quel résultat? Moi également, je reste très sceptique. Et donc moi je crois qu'une véritable réconciliation doit être une réconciliation de tous les Congolais, non seulement ceux qui ont pris les armes, mais aussi les Congolais qui n'ont pas pris les armes. Et ceux qui ont pris les armes, il n'y a pas que l'M23. Il y a plusieurs groupes qui ont pris les armes, il faut les écouter. Il faut d'abord les désarmer, les combattre et organiser une réconciliation. solution d'ensemble. C'est de cette manière-là que la véritable réconciliation peut mettre autour d'une table tous les Congolais pour les écouter et pour analyser les problèmes les plus cruciaux qui sont à la base de la crise.
Mais professeur, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Maître Maubert Nsenga qui pense que le seul élément positif dans ses déclarations, c'est le fait de mettre fin au pourparlers de Kampala?
Bon, je respecte le point de vue parce qu'il y a plusieurs points de vue sur les déclarations qui ont été signées. Mais de mon point de vue, je pense que quand un mouvement militaire change de nature et devient un parti politique, je crois que même au niveau de la science politique, on considère qu'il y a là une avancée positive. Et donc, on ne peut pas considérer que le changement de nature est une mauvaise chose et qu'il ne s'agit pas là d'un fait positif. Ailleurs, et je crois d'ailleurs que c'est le schéma utilisé chaque fois qu'on veut quitter le schéma de la guerre vers le schéma de la paix, on propose que le mouvement militaire change de nature, mais devienne une partie politique. Et donc, ce changement-là ne me semble pas une chose négative. Ça doit être mis dans le panier de choses assez bonnes de cet accord. Et donc, à moins de dire que ceux qui ont pris les armes n'ont plus le droit de créer des partis politiques ou d'adhérer dans de nouveaux partis politiques. Il me semble bien qu'il a son point de vue, et bien, chaque Congolais a un point de vue exprimé. Mais dire qu'il n'y a pas de point positif dans cette déclaration, je ne le crois pas.
Merci.
Par contre, j'ai soutenu au début que s'il y a eu signature de l'accord, c'est effectivement aussi le produit de plusieurs pressions internationales qui ont été exercées sur la RDC pour que
Merci.
La fin de combat se termine par des accords.
Merci, professeur. Je signale en passant qu'il nous reste moins de 9 minutes pour terminer cette émission. Professeur Moïla Tshiembe, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus du Katanga.
Au moment où nous attendions les moins, les deux accords, ceux du M23 et de notre gouvernement congolais, sont tous définis de façon unilatérale, alors que nous attendions à un accord définitif signé conjointement pendant les pourparlers de Kampala. Comme ceci n'est pas le cas, il n'y a donc pas de garantie ou garde-fou qui atteste ou attesteront le respect de ces signatures. Le M23, poussé dans ses derniers retranchements par les FARDC, n'a usé que de la politique de reculer pour bien sauter. Notre gouvernement ne doit pas se frotter les mains et dormir sur ses oreillers aussi longtemps qu'il y a encore des poches de résistance qui continuent à semer la panique et la désolation à l'est du pays.
Dans le même sens, professeur, j'ajoute la réaction de Fabien Kazadi de Lubumbashi au Katanga. Quelle garantie avons-nous que le M23 ne reviendra pas sous un autre nom comme ce fut le cas avec le CNDP après la signature de ces déclarations, professeur, brièvement?
Ben, évidemment, une des possibilités de garantir l'intérêt, c'est d'obtenir du gouvernement congolais qu'il applique, ne serait-ce que ses propres engagements. Vous savez, les questions primordial, notamment la question de retour des réfugiés et de personnes déplacées qui est dans cet accord, qui était déjà dans l'accord de 2009, la création d'une commission des biens spoliés, extorqués, volés, pillés, détruits, qui était déjà dans l'accord de 2009, la question de la réconciliation dont mon collègue a parlé tout à l'heure. Si on ne prend que ces trois éléments, le Congo, le gouvernement et tous les Congolais souhaitent la paix. Mais on ne peut pas seulement souhaiter la paix en déclarant que l'on veut la paix. La paix, c'est un sacrifice. Et le sacrifice est dans le geste de dépassement des uns et des autres. Donc le retour des Congolais, de tous ces Congolais qui sont à l'étranger, dans leur pays, et ici le gouvernement, contrairement à l'accord de 2009, a pris l'engagement de non seulement de créer une commission qui doit s'occuper de cette question, mais de faire appel à la justice. Si les Congolais qui sont rentrés de l'extérieur reviennent dans leur pays, d'abord ils doivent le faire d'une manière individuelle, on ne peut pas contraindre quelqu'un de rentrer dans son pays, même s'il a le statut de réfugié. Donc il faut qu'il y ait une déclaration de ces personnes de rentrer dans leur pays. Mais si vous avez perdu leur bien, leur terre ou autre chose, reprise en main par d'autres Congolais, pour une fois, le gouvernement a mis le pied sur l'idée que c'est par la justice, le Congo a des juridictions, on a des magistrats et des hommes compétents pour le faire, et si vraiment on demande à la justice congolaise de voir qui a pris le bien de qui est-ce qui a le titre pour le garder ou pour le perdre, on peut régler l'affaire de retour des Congolais qui sont à l'étranger.
Merci.
L'autre élément, et j'en finis sur la question de la réconciliation. Vous savez, la réconciliation dans l'accord de 2009, c'était une affaire entre les Kivuciens. Souvenez-vous, on a réuni une conférence avec les gens du Kivu, mais l'avenir de la province nord du Kivu, de la province du sud du Kivu,
merci,
l'affaire de la guerre ou même de Banyamulenge, c'est une affaire de tous les Congolais.
Merci,
on ne peut pas se contenter de ramener ces questions à des querelles politiques entre les ressortissants du Kivu. C'est une affaire congolaise qui concerne tout le monde.
Merci,
je
professeur.
Pense que l'intérêt du gouvernement d'avoir créé la commission ou qu'il pensait, c'est que comme mon collègue l'a dit, il faut que cette commission de réconciliation s'adresse à toute la rébellion.
Merci, professeur.
Et à tous les Congolais pour pouvoir dégager
les lignes de conduite. Voilà, merci professeur. Il nous reste moins de 4 minutes. Maître Morbert Nsenga, il y a Gabriel Kolongo qui dit de Goma Nord Kivu qui dit signer un accord, c'est créer une nouvelle guerre. Mais pour faire échapper à la RDC cette nouvelle guerre, le gouvernement doit amener cet accord signé sur les 3 apports et le faire ratifier au Parlement afin de faciliter la mise en œuvre, la mise en vigueur, car au cas contraire, c'est la guerre qui est à notre porte.
Oui, légalement, sous réserve d'être contredit, rien n'oblige le gouvernement à porter ses déclarations ou accords ou je ne sais quoi devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement en tout cas. Donc il peut le faire comme il ne peut pas le faire. Constitutionnellement, légalement, il n'est pas obligé. Le problème, le vrai problème, comme j'ai dit, c'est que on est en train de penser régler la question de façon cosmétique en changeant juste des termes. On passe d'accord à déclaration. On se rappelle tous les débats qu'il y avait eu autour des concertations nationales où les gens parlaient du dialogue et des ordres de concertation. Donc finalement, les Congolais, on a comme une manie de jongler avec les mots sans aller dans la substance des choses et régler les vrais problèmes. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, la réforme du secteur sécurité. Enfin, on en parle dans les recommandations des colloques et des ateliers, mais où est-ce qu'on en est? Est-ce que le gouvernement peut nous dire où en est-on avec la réforme du secteur sécurité?
Maître
Parce que
Nsenga,
quel que soit, il peut signer 1000 accords avec toutes les rébellions et tous les pays voisins. Si on n'a pas une armée forte, capable de défendre en tout temps et en toutes circonstances l'intégrité et la souveraineté du pays, on aura toujours des sérieux problèmes.
Maître Nsenga,
oui.
Maître Nsenga, il nous reste moins de 2 minutes pour terminer l'émission. En guise de conclusion, comment entrevoyez-vous l'avenir après le M23? Juste en un mot.
Moi, je pense que l'avenir est confus, et l'avenir est sombre. D'autant plus que, pour vous donner un exemple, on parle du cantonnement des militaires du M23, mais il y a des militaires de Tcheka et APCLS qui sont cantonnés actuellement à Bouérémana et qui sont dans des conditions inhumaines.
Merci.
qu'on ne peut même pas prendre en charge.
Merci.
Est-ce qu'on veut vraiment la paix lorsqu'on ne veut pas prendre en charge des rebelles qui se sont rendus et
merci,
qui sont prêts à être désarmés? Est-ce que c'est le M23 qui va être mieux traité?
Merci, Maître Nsenga. Professeur Félicien Kabamba, juste un mot, la même question. Comment entrevoyez-vous l'avenir après le M23, en un mot?
Après le M23, il y a les déclarations qu'il faut signer, donc qui ont été signées. Il faut donc passer à l'acte. Il faut appliquer ce qui a été conclu. Il me semble bien que c'est sur ce terrain-là qu'on peut avancer. Il ne sert à rien de signer des choses qu'on n'applique pas.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Professeur Moïla, un mot également, en guise de conclusion.
Pour conclure, je pense que la paix est à condition que le gouvernement de la République prenne les engagements, applique les engagements qu'il a pris et que le M23 vaincu tienne aussi ses engagements.
Merci professeur, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais s'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.